Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Et voici le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Un passeport falsifié, l'Élysée accuse Alexandre Benalla de faux. Nouvelles auditions cet après-midi au Sénat. Claude Guéant ne devrait pas aller en prison, mais sa condamnation à un an ferme est validée par la Cour de cassation dans l'affaire des primes en liquide. L'État demande la convocation dans les prochains jours d'un conseil d'administration de Renault pour désigner un successeur à son PDG Carlos Ghosn, incarcéré au Japon. À la une également, le gouvernement britannique qui survit à la motion de censure déposée par l'opposition. Deux versions diamétralement opposées au procès du viol présumé d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres. Sanofi qui refuse d'indemniser les victimes de la dépakine. Et puis le foot, Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille, c'est la mi-temps et l'OM qui domine dans un match très serré, Anthony Perel.
Oui, petite surprise, c'est Marseille qui est devant à la marque. L'OM mène 1-0 contre Saint-Etienne. Un but signé Strootman de la tête sur un excellent service de Thauvin. C'était à la 17e minute de jeu. Les Stéphanois ont ensuite poussé dans cette première mi-temps, mais l'OM a tenu.
Merci Anthony Perel, que l'on retrouvera plus longuement dans le courant de ce journal pour faire un nouveau point. Du côté de la météo, Elena Morna nous annonce le retour progressif des éclaircies demain sur l'ouest et le nord. La pluie, elle, s'étendra des Pyrénées aux Alpes et à l'Alsace avec de la neige à basse altitude sur tous les reliefs. Des nuages près de la Méditerranée avec des averses en matinée. Prévision complète à la fin de ce journal. Et puis votre rendez-vous écho à 22h20 avec Emmanuel Duteil qui reçoit, figurez-vous, ce soir Christophe Barrault. Il a été désigné meilleur économiste du monde par Bloomberg.
Europe 1.
L'affaire Benalla, de retour donc devant la commission d'enquête sénatoriale avec de nouvelles auditions, celle du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, mais aussi du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, qui a porté des accusations cet après-midi puisqu'il dénonce les conditions dans lesquelles Alexandre Benalla a obtenu l'un de ses passeports de service.
Monsieur Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographié à en tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Quand on a vu ce document, bien évidemment, on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur, et il n'est pas l'auteur de cette note. Donc, soupçonnant une falsification faite par M. Benalla, nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40.
Ah oui, à quelle date ?
Ce matin.
Voilà la justice qui est saisie donc d'une possible falsification. Patrick Strauda qui assure par ailleurs qu'Alexandre Benalla a utilisé ses passeports diplomatiques à une vingtaine de reprises depuis son licenciement. Claude Guéant, définitivement condamné dans l'affaire des primes en liquide. Un an de prison ferme pour l'ancien ministre accusé d'avoir puisé dans une enveloppe destinée aux frais d'enquête de la police. Julien Pierce, la Cour de cassation, a donc confirmé cette condamnation de l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy.
Oui, le 23 janvier 2017, Claude Guéant avait été condamné pour détournement de fonds publics à 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme à 75 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. Condamnation donc confirmée aujourd'hui par la Cour de cassation, ce qui ne veut pas dire que Claude Guéant dormira ce soir en détention, vu que les peines inférieures à 2 ans de prison sont généralement aménagées. C'est en 2013 que l'affaire éclate. Souvenez-vous, lorsque le domicile de l'ancien secrétaire général de l'Élysée est perquisitionné dans le cadre de l'enquête sur un présumé financement illégal par la Libye de la campagne présidentielle de 2007. Pendant leur recherche, les policiers sont intrigués par les nombreuses factures qu'ils découvrent. Des achats de la vie courante comme de l'électroménager systématiquement payés en espèces. Pour se justifier, Claude Guéant révèle alors l'existence de primes en liquide au ministère de l'Intérieur. Entre 2002 et 2004, alors qu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, l'énarque puisait 10 000 euros chaque mois sur le budget de la police. Il en gardait la moitié pour lui afin d'améliorer son salaire de 8 000 euros qu'il jugeait, je cite, « trop étriqué » et distribuer le reste à 3 de ses collaborateurs. 210 000 euros en tout ont ainsi été détournés. C'était une pratique qui faisait partie des usages du ministère, s'est défendu devant la Cour Claude Guéant, qui grâce à cet argent liquide n'a retiré que 800 euros de son compte bancaire entre 2003 et 2012.
Les précisions signées Julien Pierce. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaite que Renault désigne rapidement un successeur à Carlos Ghosn incarcéré au Japon. Il l'a dit ce soir chez nos confrères de LCI.
J'ai toujours indiqué également, en rappelant la présomption d'innocence de Carlos Ghosn, que si Carlos Ghosn devait être durablement empêché, nous devrions passer à autre chose, à une nouvelle étape. Nous y sommes. Ce que l'État, comme actionnaire de référence, souhaite par conséquent, c'est d'abord la convocation du conseil d'administration de Renault dans les prochains jours. La deuxième chose que nous souhaitions, c'est que ce conseil d'administration désigne une nouvelle gouvernance pérenne pour Renault. Ensuite, ce sera au conseil d'administration de définir exactement les contours de ses fonctions. Mais dans cette nouvelle étape, nous avons besoin maintenant d'une nouvelle gouvernance pérenne pour Renault.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Après l'explosion survenue rue de Trévise samedi à Paris, 6 immeubles voisins menacent de s'effondrer et doivent subir d'importants travaux de remise en état qui pourraient prendre plusieurs mois. 3 autres sont inhabitables jusqu'à nouvel ordre. Un hommage sera rendu demain aux 2 pompiers tués dans cette explosion à la caserne de Champéret, le siège de l'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ils n'en peuvent plus et ils le font savoir. Opération coup de poing aujourd'hui des commerçants de Toulouse qui ont apposé sur leur vitrine des panneaux d'un genre particulier pour dire l'urgence de la situation face aux manifestations des Gilets jaunes. On rappelle, Benjamin Peter, vous êtes le correspondant d'Europe 1, on rappelle qu'on est en pleine période de soldes.
Oui, c'est un grand panneau de 50 sur 70 cm où on peut lire « à vendre » et juste au-dessus « commerce en danger » parce que pour beaucoup, eh bien, c'est la survie de leur établissement qui est en jeu. Olivier tient une brasserie sur la place du Capitole. De semaine en semaine, son chiffre d'affaires s'est effondré avec de graves conséquences sur l'emploi.
C'est carrément une perte pour les samedis de 80% du chiffre d'affaires, sauf que le samedi représente 60-70% de notre chiffre d'affaires de la semaine, donc c'est plus supportable. J'avais embauché 7 personnes pour les fêtes de Noël et également je pensais les prolonger pour la période des soldes. J'ai dû mettre un terme à ces contrats et également une partie de mon personnel qui va se retrouver au chômage partiel.
Alors il y a un numéro de téléphone sur ces panneaux à vendre, mais si vous appelez, vous ne tomberez pas sur une agence immobilière, mais sur le standard de la préfecture. Isabelle, qui est propriétaire d'un magasin de chaussures, réclame l'aide de l'État.
On demande à être protégé, que le préfet et l'État rétablissent l'ordre dans la ville pour que nos clients aient envie de redescendre en ville. Tout simplement, qu'ils nous laissent travailler en paix, on aurait des solutions et on s'en sortirait. Mais si on ne voit pas l'issue pour l'instant, donc on n'a pas le moral parce qu'on ne voit pas d'issue à ce problème.
Et certains menacent, si ça continue dans les prochaines semaines, ils pourraient refuser de récolter la TVA pour l'État.
Le reportage de Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. On prend la direction de Londres maintenant, où le gouvernement de Theresa May a survécu à la motion de défiance déposée par l'opposition. La question était posée de savoir si Theresa May resterait en poste au lendemain du rejet massif de l'accord de sortie de l'Union européenne. Eh bien la réponse est oui. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1.
Ah oui, rien à voir avec la claque d'hier soir. Cette fois, sa majorité a fait bloc et c'est la première fois depuis un bon moment. Quasiment tous les députés conservateurs ont voté ensemble pour redonner leur confiance au gouvernement, rejetant par 325 voix contre 306 cette motion de censure. Mais c'est maintenant que le plus dur commence et Theresa May veut s'y mettre tout de suite. Écoutez-la.
Cette assemblée a exprimé sa confiance au gouvernement. Nous continuerons à travailler à mettre en œuvre le résultat du référendum, quitter l'Union européenne. Nous avons tous la responsabilité de trouver une solution qui aura le soutien du Parlement. Je vous propose une série de réunions. J'aimerais inviter les leaders des différents partis à me rencontrer individuellement et je voudrais que ces rendez-vous commencent dès ce soir.
Et ces consultations ont effectivement commencé dans la foulée à Downing Street, avec notamment le parti écossais très pro-européen. Le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a lui immédiatement mis un préalable. Il veut que Theresa May écarte officiellement le scénario d'un no deal, d'une sortie sans accord. Alors l'objectif des prochains jours, ça va être de trouver une nouvelle voie qui puisse être approuvée cette fois par le Parlement. Le problème, c'est qu'à ce stade, il n'y a de majorité pour aucune solution. Certains plaideront pour un second référendum, d'autres pour conserver les avantages de l'union douanière, un peu comme la Norvège. Theresa May devra dire lundi quel scénario elle envisage. Le plus probable, c'est qu'on s'oriente d'abord vers un report du Brexit.
Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. En tout cas, un Brexit sans accord serait problématique, évidemment, pour plusieurs secteurs clés au sein de l'Union européenne. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, estime qu'il faut se préparer au pire scénario, tandis que la Chambre allemande du commerce agite carrément la menace d'un chaos. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Parole contre parole au procès du viol présumé d'une touriste canadienne au 36 Quai des Orfèvres. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, c'est la suite de votre journal sur Europe 1 avec la suite du procès du viol présumé d'une touriste canadienne par 2 policiers dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres. Et la première audition aujourd'hui de la jeune femme et de celle des accusés, 2 versions que tout oppose, Chloé Triomphe.
C'est l'une des principales difficultés de ce procès où, comme beaucoup d'affaires de viol, c'est parole contre parole. Et là, c'est simple, les récits s'opposent en tout, que ce soit sur le début de soirée au pub ou sur la scène des viols au 36 quai des Orfèvres, à proprement dit, que la partie civile a raconté à l'audience, un moment visiblement éprouvant, comme l'explique son avocate, Maître Sophie Obadia.
Le temps a beaucoup passé, donc effectivement, c'est assez compliqué pour elle de restituer l'intégralité des choses. On lui a demandé une nouvelle fois de témoigner, de raconter. Mais c'est normal, c'est le jeu de la cour d'assises, voilà, elle tient ce qu'elle a toujours dit.
Alors la version de la défense est radicalement différente et les avocats n'ont pas hésité à pointer les contradictions de la partie civile, souvent en larmes à la barre, une attitude à laquelle s'attendait Maître Anne-Laure Compoint.
Ah, sans surprise, hein, comme à l'instruction, à chaque fois que madame est mise en difficulté, on se retranche derrière des pleurs, quelle que soit la nature de la question, même sans rapport avec les faits. Voilà, classique.
La cour n'a pas encore entendu sur la longueur les explications des deux policiers qui ont réaffirmé au début de ce procès qu'ils n'auraient jamais commis les actes dont on les accuse.
Chloé Triomphe qui suit ce procès pour Europe 1. Nous ne paierons pas la fin de non-recevoir de Sanofi pour l'indemnisation des victimes de la Dépakine, ce médicament anti-épileptique à l'origine de milliers de malformations d'enfants depuis la fin des années 60. Le laboratoire estime avoir suffisamment informé les autorités sur les risques encourus pour les femmes enceintes. Proprement scandaleux pour Marine Martin. Elle est la présidente de l'APESAC, l'association de victimes de la Dépakine.
Ils continuent sur leur lignée, c'est-à-dire à refuser d'assumer leurs responsabilités et d'accuser l'État. Donc ce n'est pas une surprise. Mais par contre, j'ai besoin que le gouvernement fasse une déclaration forte et exige du laboratoire qu'il participe à ce fonds d'indemnisation. Il est hors de question de demander à nouveau aux contribuables de payer pour un laboratoire qui a trompé et qui gagne des millions d'euros. Nous, en face, il y a des enfants lourdement handicapés, des troubles autistiques qui nécessitent la présence d'une personne au quotidien. Les méthodes pour soigner l'autisme sont extrêmement cher, ça peut coûter jusqu'à 2500 euros par mois aux familles. Et aujourd'hui, elles ne sont pas en capacité de soigner leur enfant du fait de ce manque d'indemnisation.
La présidente d'une association de victimes de la Dépakine avec Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Déclaration polémique du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Il assure que les jeunes se saoulent aujourd'hui avec des mélanges ou de l'alcool fort plutôt qu'avec du Côte-du-Rhône. De nombreux addictologues s'indignent. Ils invitent le ministre à faire un tour aux urgences un soir de feria ou de Beaujolais nouveau. Et puis il y a du foot ce soir et vous savez qu'on suit ça en direct sur Europe 1 depuis un peu plus d'une heure. Saint-Étienne-Marseille, Anthony Perel, on vous retrouve en direct et c'est toujours l'OM qui domine, qui mène en tout cas.
Oui, qui mène, puisque ce sont les Marseillais qui mènent 1-0. Sont pourtant les Stéphanois qui avaient le mieux démarré cette partie avec notamment une énorme occasion et un gros raté de Loïs Diony après 12 minutes de jeu. Sur un incroyable service de Wahbi Khazri sur la droite, l'attaquant Stéphanois a hérité d'un ballon seul au 6 mètres. Il était tout seul, mais il a manqué le cadre de manière assez incroyable. Et 4 minutes plus tard, sur une action relativement similaire, Thauvin a déposé le ballon sur la tête de Strootman, qui lui ne s'est pas fait priver pour ouvrir la marque, prenant à contre-pied Stéphane Ruffier. Les Marseillais ont littéralement exulté sur ce but. Et puis ensuite, ils ont su faire le dos rond. Les Stéphanois ont poussé, multipliant les assauts sur le but de Mandanda. L'OM a plié mais n'a pas rompu. On notera quand même une situation litigieuse peu avant la demi-heure de jeu quand Khazri s'est effondré dans la surface de réparation olympienne. L'arbitre Monsieur Gauthier n'a pas sifflé de pénalty. Le camion du VAR a confirmé sa décision. Et au final, Marseille a réussi à rentrer au vestiaire avec un petit mais précieux avantage. Et pour cette deuxième mi-temps, même scénario. Les Verts tentent de jouer haut pour égaliser. On joue la 50e minute de jeu et le score n'a pas évolué. Toujours 1-0. Si l'OM parvenait à battre Saint-Etienne, il réaliserait une sacrée performance. Saint-Etienne est avec Paris, la seule équipe vaincu à domicile en championnat.
Merci beaucoup Anthony Perel en direct de Geoffroy Guichard. On vous retrouvera d'ici 22h30 pour faire un nouveau point. Il y avait 4 autres matchs ce soir. Un partout entre Monaco et Nice. Nîmes s'impose à domicile face à Nantes 1-0. 2 partout entre Toulouse et Lyon. Et victoire de Guingamp de Buzyn contre Rennes. Et on jette un œil tout de suite sur la météo. Elena Morna. Elena, on a eu davantage de soleil aujourd'hui sur le nord-ouest qu'en 18 jours. Est-ce que ça va durer ?
Eh bien, pas vraiment, Isabelle. Les nuages et la pluie ont déjà rappliqué cet après-midi sur Rouen. On a eu 2h01 de soleil aujourd'hui, alors qu'on en était à 1h58, mais en 18 jours. Pareil pour Paris, avec 271 minutes de soleil contre 244 depuis fin décembre. Alors demain, les éclaircies reviendront progressivement sur le nord-ouest jusqu'au Hauts-de-France, en région parisienne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Après une matinée bien grise, quand même localement, même du grésil sur les bords de Manche. Ce sera plus sec, plus lumineux l'après-midi, surtout entre le littoral normand et le sud de la Bretagne jusqu'en Charente-Maritime. À l'avant, des Pyrénées aux régions de l'Est, le ciel sera gris, pluvieux, des pluies plus marquées le matin et de la neige sur les reliefs à basse altitude. Les pluies vont s'espacer, l'après-midi ce sera plus sec et un peu plus clair, c'est vrai, près de la Méditerranée. Et puis côté température, pas de gelée demain matin et puis ça baisse l'après-midi par rapport à aujourd'hui avec 5 degrés à Lille, 7 au Havre, à Paris et Auxerre demain après-midi, hein. 8 à Blois et Strasbourg, 10 à Brest, Nantes et Toulouse, 11 à Bordeaux et Lyon, 14 pour Montpellier et Marseille, jusqu'à 16 à Bastia.
La météo comme tous les soirs, signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Christophe Barrault, désigné meilleur économiste du monde en 2018. À tout de suite.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17, on s'intéresse à la bourse comme tous les soirs. Avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui poursuit sur sa lancée d'hier, encore en hausse. Hein.
Ça gagne 0,59% sur le Dow Jones, 24 207 points. Sur le Nasdaq, plus 0,15%. Une petite hausse, 7 035 points. Une hausse quand même. Et ce sont les valeurs bancaires qui poussent le marché à la hausse. Après la publication de leurs comptes du quatrième trimestre, Goldman Sachs s'enflamme de 9%, un peu plus. Même 9,5%, 197 $, après quand même 2,5 milliards de profits annoncés sur le quatrième trimestre. Et puis Bank of America gagne aussi 7%, 28,45 $. Là, c'est carrément plus de 7 milliards de $ de profits affichés au quatrième trimestre. Donc les bancaires en très forte hausse. Le pétrole est en progression, mais plus modeste, plus 0,7%, 52,40 $ le baril. Exxon est stable ce soir et les valeurs de technologie sont encore en progression, mais plus modérées aussi. Apple, plus 1,2% à 154,94 $. Microsoft, plus 0,3%. Amazon, plus 0,5%. IBM est inchangé. Inchangé aussi l'euro, toujours sur les 1,14 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a, elle aussi, terminé dans le vert avec les bancaires.
Deuxième séance de hausse consécutive en Bourse de Paris. Le CAC 40 remonte de 0,51%, 4810 points, sans grande réaction à la situation britannique. Les marchés anticipant un report de la date butoir du 31 mars pour le Brexit. Une perspective qui profite quand même au secteur bancaire, aidé aussi par les nouvelles en provenance des États-Unis. La Société Générale, plus 4%. BNP, plus 3,3%. Crédit Agricole, plus 3,9%. L'automobile aussi remonte encore. Peugeot, plus 3,3% après les bons chiffres publiés hier. Renault, plus 1,7% en vue du conseil d'administration qui va examiner les candidats à la succession de Carlos Ghosn dans les prochains jours.
Exception du jour, Didier, Pernod Ricard qui a légèrement reculé.
Petite exception, moins 0,8%, une petite baisse, 137,20 €. Le PDG du groupe, Alexandre Ricard, a rencontré les représentants du fonds Elliott qui possède 2,5% du capital du groupe Pernod Ricard et qui veut maintenir la pression sur la direction pour le moment sans grand résultat. Pernod en légère baisse de 0,8% ce soir. Sur les autres places financières, ça monte partout. Le DAX, plus 0,36%. Bruxelles, plus 0,7%. Madrid, plus 0,7%. Milan, plus 1,6%. Enfin, ça monte partout, sauf à Londres. Moins 0,5%, toujours avec l'affaire du Brexit, évidemment. On rappelle le CAC 40 en hausse à Paris. 0,51% de mieux, 4810 points.
Eh bien, merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com. À demain. Et à 22h20, il est temps de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le meilleur économiste du monde.
Bonsoir Christophe Barrault.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Et si on a eu envie de vous inviter, c'est que vous êtes le meilleur économiste du monde. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est l'agence Bloomberg, qui est un des grands noms de la finance aux États-Unis. C'est la 7e année consécutive où vous êtes sacré meilleur économiste sur les prévisions américaines, 4e année à la suite sur l'Europe, 2e sur la Chine. C'est tout simplement du jamais vu. Comment on fait pour être le meilleur économiste du monde ?
Alors, c'est plusieurs choses. C'est déjà beaucoup de travail. C'est se lever très tôt. C'est beaucoup, je dirais, de rigueur dans l'interprétation des données, dans, je dirais, le travail de recherche, de tri des données. Et après, c'est avant tout une passion plutôt qu'un travail. Donc, c'est y consacrer énormément de temps et apprécier ce qu'on fait.
Alors, ce qui est assez fou, c'est que je vous avais rencontré il y a quelques mois. Vous m'aviez dit « j'ai jamais mis un pied aux États-Unis et je suis jamais allé en Chine ». Comment on peut faire des prévisions économiques sans connaître le pays, sans savoir comment réellement il vit d'une certaine manière ?
À la limite, je pense qu'avec le recul, c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où vous n'êtes pas biaisé par l'ambiance du pays. vous êtes plus dans une posture où vous allez regarder un petit peu les données de l'extérieur et vous allez vous en tenir uniquement aux données et faire des prévisions, bah forcément, peut-être sur un pays que vous ne maîtrisez pas totalement ou vous ne connaissez pas les habitudes des gens, mais finalement, c'est peut-être avoir un recul supplémentaire. Par exemple, moi, pendant longtemps, je faisais des prévisions sur la France et j'étais tout le temps en dessous du consensus. C'est-à-dire que j'étais un petit peu biaisé négativement, parce que voilà, nous, les Français, on est toujours un petit peu plus pessimistes. Et donc, je pense que le fait de ne pas y être est plutôt un avantage qu'un inconvénient.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même la régularité, hein, 7e année consécutive de meilleurs économistes. Et quand on regarde les noms qui sont derrière, la plupart des économistes des grandes institutions financières mondiales sont représentés. Vous en faites aujourd'hui une forme de challenge. Quand vous débutez l'année, vous dites il faut faire la 8e.
Ah, complètement. C'est, voilà, c'est mon challenge. C'est quelque chose que j'apprécie avant tout. Et encore aujourd'hui, voilà, c'est quand même quelque chose qui est capital en fait quand vous voulez faire de la prévision. C'est voilà, essayer d'anticiper qu'est-ce qui va se passer dans chaque secteur, comment ça peut avoir un impact aussi sur les politiques économiques, etc.
Alors justement, on va regarder un petit peu peut-être ce qui va se passer selon vous dans les mois à venir. On a un élément d'actualité totalement capital, c'est le fait que Theresa May en Grande-Bretagne a perdu hier soir son vote pour obtenir un accord sur le Brexit. Personne ne sait ce qui va réellement se passer. Est-ce que c'est ça le plus grand risque au minimum de l'économie européenne, voire de l'économie mondiale ?
Clairement, le Brexit et surtout le scénario en fait, de ce qu'on appelle un Brexit dur,
c'est-à-dire sans accord,
sans transition, ça pourrait avoir un impact négatif d'une amplitude qui aujourd'hui, que ce soit pour moi ou je pense mes confrères, n'est pas mesurable. C'est difficile de dire toutes les répercussions que ça peut avoir donc économiquement d'une part, mais aussi financièrement, donc sur les banques, que ce soit au Royaume-Uni, en Europe, etc. Mais ça vient s'ajouter en fait à tout un tas de paramètres d'incertitude de politique économique. Donc, il y a le Brexit à très court terme. Vous avez aussi en fait tout ce qui a trait aux échanges mondiaux et à la guerre tarifaire donc, menée par l'administration Trump qui pourrait prendre une nouvelle dimension avec l'Europe et des tarifs sur l'automobile à très court terme. Donc, on ne sait pas exactement quand. Vous avez aussi un certain nombre d'échéances électorales avec les élections parlementaires en mai. Et voilà, cette incertitude aussi aux États-Unis avec un petit peu, je dirais, les pôles démocrates-républicains qui sont rééquilibrés. Et aujourd'hui, voilà, un arrêt des activités gouvernementales et des difficultés à se projeter.
Si on revient un tout petit peu sur le Brexit, pour nous Français, vous pensez que la conséquence va être aussi gigantesque, c'est-à-dire que ça va pénaliser notre économie ?
Alors, tout dépend si c'est vraiment ce Brexit dur ou si on arrive à trouver un accord. Mais une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'on est pour 2019, globalement, c'est un scénario d'une croissance qui va se décélérer. Et on le voit sur chaque zone géographique, dont la France. Et ça va rajouter au moins un peu d'incertitude sur la politique économique, sur les entreprises, sur la manière dont elles vont investir. Et au moment même où, voilà, où on est vraiment dans une situation compliquée avec le mouvement des Gilets jaunes, où il y a déjà de l'incertitude, et que donc ça en rajoute encore un petit peu plus. Donc sans parler du scénario catastrophe qui serait le Brexit dur.
Ce qui inquiète aussi beaucoup les économistes, les personnes qui travaillent sur les marchés, c'est la hausse des taux d'intérêt, puisque la Banque centrale américaine a décidé de relever ses taux. Hein. C'est quelque chose qui est très important, puisque c'est ce qui définit les prêts immobiliers. On sait que la Banque centrale européenne devrait a priori le faire aussi cette année. Ça veut dire que nous, si on regarde notre petit nombril, nos crédits immobiliers vont augmenter en France ?
Alors, concernant la politique monétaire de la Fed, on était sur une base de relèvement régulier. On voit aujourd'hui qu'elle serait plutôt dans une phase où elle va faire une pause à très court terme, au moins à la première partie de l'année. On ne sait pas si elle reprendra deuxième semestre. Concernant l'Europe, moi, je ne suis pas vraiment convaincu que la Banque centrale européenne soit en mesure de relever comme elle le prédisait l'été 2019. Alors, elle le fera peut-être fin d'année, mais on n'est pas vraiment sûr. Et l'impact sur les taux longs, je pense qu'il sera très limité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez emprunter,
c'est
généralement...
encore un petit peu de temps.
Voilà, c'est des taux longs à au moins 15 ans, on va dire, ou au-delà. Et l'impact sera d'une première hausse de taux sera limitée.
Alors, il y a aussi un dossier qui est passionnant, c'est le dossier chinois. Vous parliez de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La Chine a une particularité, c'est que c'est, je pense, le seul grand pays au monde qui ne revoit jamais à la baisse ou à la hausse les prévisions une fois qu'elles sortent. Par exemple, c'est le premier pays au monde d'habitude à sortir son chiffre de croissance de l'année passée. Comment, du coup, on arrive à faire les bonnes prévisions quand on sait que ces chiffres sont faussés ?
Alors,
on intègre ça dans ces prévisions ?
Alors, on l'intègre un peu plus, et sur les chiffres du PIB, donc qui est au final un agrégat global, je dirais la clé pour être un peu meilleur que les autres, c'est vraiment suivre les déclarations dans les journaux. Parce que souvent, on sait que les chiffres, les officiels les ont un petit peu avant et vont les discuter. Et souvent, on peut vous donner une tendance, donc un jour ou deux jours avant, ou carrément vous donner le chiffre. Donc, concernant, pour être totalement transparent sur le PIB chinois, c'est... on va s'attacher aux déclarations des officiels et pas essayer de recomposer toutes les données dont on dispose.
Et ben on va surveiller tout ça. Merci beaucoup en tout cas et encore plaisir. Félicitations. Donc Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste chez Market Securities, qui a donc été sacré, là, c'était hier ou avant-hier, meilleur économiste au monde. 7e année consécutive sur les États-Unis, 4e année consécutive sur l'Europe, 2e sur la Chine. Je vous dis à l'année prochaine du coup.
J'espère.
Et nous, à demain, 22h20.
À demain. Merci Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Brexit, le cul-de-sac à la une de Libération après le rejet du Parlement britannique d'un accord âprement négocié. Brexit, la victoire des agents du chaos, titre le journal L'Opinion qui explique que le travailliste Jeremy Corbyn et le conservateur Boris Johnson manœuvrent contre la première ministre Theresa May pour faire de la sortie de l'Union européenne un énorme fiasco avec un seul objectif, prendre le pouvoir, quitte pour cela à provoquer un séisme. Le tunnel du Brexit, également à la une du journal La Croix. Tout cela est profondément attristant, écrit Guillaume Goubert, car personne ne sera gagnant à cet interminable feuilleton, ni la Grande-Bretagne qui patauge depuis plus de 2 ans dans les conséquences de son vote en faveur du Brexit, ni le reste de l'Union européenne qui dépense une énergie et un temps considérables pour trouver les voies et les moyens d'une séparation honorable. Aujourd'hui, l'enjeu pour la Grande-Bretagne n'est pas de sauver l'Europe, mais de se sauver elle-même. Une analyse similaire, celle de Bernard Stéphan dans La Montagne. Mission impossible, écrit-il. Voilà une bien mauvaise presse pour l'usage du référendum. Les Britanniques ne font pas la démonstration que la démocratie directe est celle de l'efficacité. Depuis plus de 2 ans, le Brexit traîne en longueur, sans issue. Dans cette affaire, on fait procès à Londres de ne pas vraiment savoir se décider. Mais on devrait aussi faire procès à l'Union européenne de ne pas trancher clairement. On a compris depuis longtemps que Londres veut bien les plaisirs de l'Union libre, mais jamais le contrat de mariage. C'est donc à la famille européenne d'appliquer ses règles. Et puis Véronique Sanson est à la une de Paris Match demain. J'ai la rage de vivre, dit-elle. Après son cancer, la chanteuse veut retrouver la scène. Voilà pour ce tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et on va faire un nouveau détour tout de suite par Geoffroy Guichard, retrouver Anthony Perel, Saint-Etienne Olympique de Marseille en direct avec vous. Et Saint-Etienne qui est revenu au score.
Oui, il reste encore 25 minutes à jouer. Le score est désormais d'un but partout. Côté scénario, les Marseillais avaient ouvert le score assez tôt dans ce match, peu après le quart d'heure de jeu. Florian Thauvin a servi de manière admirable Strootman au point de pénalty. Le milieu marseillais a trompé Stéphane Ruffier de la tête. À partir de là, le scénario du match a été celui-ci. La SS a poussé pour égaliser, l'OM a défendu et les Marseillais ont tenu plutôt bien durant la première mi-temps notamment. En deuxième période, Thauvin a même été à deux doigts de doubler la mise sur une belle reprise de volée à la 55e minute de jeu. Mais sa frappe est passée de peu au-dessus et comme c'est souvent le cas dans le foot, quelques minutes plus tard, les Stéphanois ont égalisé. Un petit peu dans la confusion, tout de même, on a assisté à une scène assez inédite. Peu avant l'heure de jeu, Cazeri s'est écroulé dans la surface de réparation. L'arbitre a sifflé un pénalty avant que son arbitre assistant ne lui signale que l'attaquant des Verts était hors jeu sur l'action. La VAR est donc intervenue et au final, l'arbitre a maintenu son pénalty comme le Tunisien n'était pas en position illicite au départ de l'action. Cazeri s'est fait justice lui-même et a égalisé. C'est donc le statu quo pour l'instant à partout et ça ne fait l'affaire de personne. L'OM ne renoue pas avec la victoire et Saint-Etienne rate l'occasion de monter sur le podium.
Eh bien, merci beaucoup, Anthony en direct de Saint-Etienne. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 et elle sera forcément excellente puisque vous êtes en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle, merci de votre gentil passage d'antenne. On vous
très
retrouve
belle
tout
émission
à l'heure.
À vous.
À tout à l'heure.